Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, sixième partie, dialogue 12, 13 et 14.
Je ne vous ai montré encore que la partie en quelque sorte défensive du régime organique que j'imposerai dans la presse. J'ai maintenant à vous faire voir comment je saurais employer cette institution au profit de mon pouvoir. J'ose dire que nul gouvernement n'a eu, jusqu'à ce jour, une conception plus hardie que celle dont je vais vous parler. Dans les pays parlementaires, c'est presque toujours par la presse que périssent les gouvernements. Eh bien, j'entrevois la possibilité de neutraliser la presse par la presse elle-même. Puisque c'est une si grande force que le journalisme, savez-vous ce que ferait mon gouvernement ? Il se ferait journaliste. Ce serait le journalisme incarné.
Vraiment, vous me faites passer par d'étranges surprises. C'est un panorama perpétuellement varié que vous déployez devant moi. Je suis assez curieux, je vous l'avoue, de voir comment vous vous y prendrez pour réaliser ce nouveau programme.
Il faudra beaucoup moins de frais d'imagination que vous ne le pensez. Je compterai le nombre de journaux qui représenteront ce que vous appelez l'opposition. S'il y en a 10 pour l'opposition, j'en aurai 20 pour le gouvernement. S'il y en a 20, j'en aurai 40. S'il y en a 40, j'en aurai 80. Voilà à quoi me servira, vous le comprenez à merveille maintenant, la faculté que je me suis réservée d'autoriser la création de nouvelles feuilles politiques.
En effet, cela est très simple.
Pas autant que vous le croyez, cependant, car il ne faut pas que la masse du public puisse soupçonner cette tactique. La combinaison serait manquée, et l'opinion se détacherait d'elle-même des journaux qui défendraient ouvertement ma politique. Je diviserai en 3 ou 4 catégories les feuilles dévouées à mon pouvoir. Au premier rang, je mettrai un certain nombre de journaux dont la demande sera franchement officielle et qui, en toute rencontre, défendront mes actes à outrance. Ce ne sont pas ceux-là, je commence par vous le dire, qui auront le plus d'ascendant sur l'opinion. Et au second rang, je placerai une autre phalange de journaux dont le caractère ne sera déjà plus officieux et dont la mission sera de rallier à mon pouvoir cette masse d'hommes tièdes et indifférents qui acceptent sans scrupule ce qui est constitué mais ne vont pas au-delà dans leur religion politique. Et c'est dans les catégories de journaux qui vont suivre que se trouveront les leviers les plus puissants de mon pouvoir. Ici, la nuance officielle ou officieuse se dégrade complètement, en apparence, bien entendu, car les journaux dont je vais vous parler seront tous rattachés par la même chaîne à mon gouvernement, chaîne visible pour les uns, invisible à l'égard des autres. Je n'entreprends point de vous dire quel en sera le nombre, car je compterai un organe dévoué dans chaque opinion, dans chaque parti. J'aurai un organe aristocratique dans le parti aristocratique, un organe républicain dans le parti républicain, un organe révolutionnaire dans le parti révolutionnaire, et un organe anarchiste, au besoin, dans le parti anarchiste. Comme le dieu Vishnu, ma presse aura 100 bras, et mes bras donneront la main à toutes les nuances d'opinion quelconques sur la surface entière du pays. On sera de mon parti sans le savoir. Ceux qui croiront parler leur langue parleront la mienne, et ceux qui croiront agiter leur parti agiteront le mien. Ceux qui croiront marcher sous leur drapeau marcheront sous le mien.
Sont cela des conceptions réalisables ou des fantasmagories? Cela donne le vertige.
Oh, ménagez votre tête quand vous n'êtes pas au bout.
Je me demande seulement comment vous pourrez diriger et rallier toutes ces milices de publicité clandestinement embauchées par votre gouvernement.
Ce n'est là qu'une affaire d'organisation, vous devez le comprendre. J'instituerai, par exemple, sous le titre de division de l'imprimerie et de la presse, un centre d'action commun où l'on viendra chercher la consigne et d'où partira le signal. Alors, pour ceux qui ne seront qu'à moitié dans le secret de cette combinaison, il se passera un spectacle bizarre. On verra des feuilles dévouées à mon gouvernement qui m'attaqueront, qui crieront, qui me susciteront une foule de tracas.
Ceci est au-dessus de ma portée. Je ne comprends plus.
Mais ce n'est pas cependant si difficile à concevoir. Car remarquez bien que jamais les bases ni les principes d'un gouvernement ne seront attaqués par les journaux dont je vous parle. Ils ne feront jamais qu'une polémique d'escarmouche, qu'une opposition dynastique, dans les limites les plus étroites.
Et quel avantage y trouverez-vous ?
Votre question est assez ingénue. Le résultat vraiment considérable des gens sera de faire dire par le plus grand nombre « Mais vous voyez bien qu'on est libre, qu'on peut parler sous ce régime, qu'il est injustement attaqué et qu'au lieu de comprimer comme il pourrait le faire, il souffre, il tolère. » Un autre résultat, non moins important, sera de provoquer par exemple des observations comme celle-ci. Voyez à quel point les barres de ce gouvernement, ses principes, s'imposent au respect de tous. Voilà des journaux qui se permettent les plus grandes libertés de langage, eh bien, jamais ils n'attaquent des institutions établies. Il faut qu'elles soient au-dessus des injustices, des passions, puisque les ennemis même du gouvernement ne peuvent s'empêcher de leur rendre hommage.
Voilà, je l'avoue, qui est vraiment machiavélique.
Vous me faites beaucoup d'honneur, mais il y a mieux. À l'aide du dévouement au culte de ces feuilles publiques, je puis dire que je dirige à mon gré l'opinion dans toutes les questions de politique intérieure ou extérieure. J'excite ou j'endors les esprits, je les rassure ou je les déconcerte, je plaide le pour et le contre, le vrai et le faux. Je fais annoncer un fait et je le fais démentir suivant les circonstances. Je sonde ainsi la pensée publique, je recueille l'impression produite, j'essaie des combinaisons, des projets, des déterminations soudaines, enfin ce que vous appelez en France des ballons d'essai. Je combats de mon gré mes ennemis sans jamais compromettre mon pouvoir, car après avoir fait parler ces feuilles, je puis leur infliger au besoin les désaveux les plus énergiques. Je sollicite l'opinion à de certaines résolutions, je la pousse ou je la retiens. J'ai toujours le droit sur les pulsations. Elles reflètent, sans le savoir, mes impressions personnelles, et elles s'émerveillent parfois d'être si constamment d'accord avec son souverain. On dit alors que j'ai la fibre populaire, qu'il y a une sympathie secrète et mystérieuse qui m'unit au mouvement de mon peuple.
Ces diverses combinaisons me paraissent d'une perfection idéale. Je vous soumets cependant encore une observation, mais très timide cette fois. Si vous sortez du silence de la Chine, si vous permettez à la milice de vos journaux de faire, au profit de vos desseins, l'opposition postiche dont vous venez de me parler, je ne vois pas trop, en vérité, comment vous pourrez empêcher les journaux non affiliés de répondre par de véritables coups aux agaceries dont ils devineront le manège. Ne pensez-vous pas qu'ils finiront par lever quelques-uns des voiles qui couvrent tant de ressorts mystérieux? Quand ils connaîtront le secret de cette comédie, pourrez-vous les empêcher d'en rire? Le jeu me paraît bien scabreux.
Pas du tout. Je vous dirai que j'ai employé ici une grande partie de mon temps à examiner le fort et le faible de ces combinaisons. Et je me suis beaucoup renseigné sur ce qui touche aux conditions d'existence de la presse dans les pays parlementaires. Vous devez savoir que le journalisme est une sorte de franc-maçonnerie. Ceux qui en vivent sont tous plus ou moins rattachés les uns aux autres par les liens de la discrétion professionnelle. Pareils aux anciens augures, ils ne divulguent pas aisément le secret de leurs oracles. Ils ne gagneraient rien à se trahir, car ils ont pour la plupart des plaies plus ou moins honteuses. Il est assez probable, j'en conviens, qu'au centre de la capitale, dans un certain rayon de personnes, ces choses ne seront pas un mystère, mais partout ailleurs, on ne s'en doutera pas. Et la grande majorité de la nation marchera avec la confiance la plus entière sur la trace des guides que je lui aurai donnés. Que m'importe que dans la capitale un certain monde puisse être au courant des artifices de mon journalisme? C'est à la province qu'est réservée la plus grande partie de son influence. Là, j'aurai toujours la température d'opinion qui me sera nécessaire, et chacune de mes atteintes y portera sûrement. La presse de province m'appartiendra en entier, car là, point de contradiction ni de discussion possible. Du centre d'administration où je siégerai, on transmettra régulièrement au gouverneur de chaque province l'ordre de faire parler les journaux dans tel ou tel sens, si bien qu'à la même heure, sur toute la surface du pays, telle influence sera produite, telle impulsion sera donnée, bien souvent même avant que la capitale s'en doute. Vous voyez par là que l'opinion de la capitale n'est pas faite pour me préoccuper. Elle sera en retard, quand il le faudra, sur le mouvement extérieur qui l'envelopperait, au besoin à son insu.
L'enchaînement de vos idées entraîne tout avec tant de force que vous me faites perdre le sentiment d'une dernière objection que je voulais vous soumettre. Il demeure constant, malgré ce que vous venez de dire, qu'il reste encore, dans la capitale, un certain nombre de journaux indépendants. Il leur sera à peu près impossible de parler politique, cela est certain. Mais ils pourront vous faire une guerre de détails. Votre administration ne sera pas parfaite. Le développement du pouvoir absolu comporte une quantité d'abus dont le souverain même n'est pas cause. Sur tous les actes de vos agents qui toucheront à l'intérêt privé, on vous trouvera vulnérable. On se plaindra. On attaquera vos agents. Vous en serez nécessairement responsable. Et votre considération succombera en détail.
Oh, je ne crains pas cela.
Il est vrai que vous avez tellement multiplié les moyens de répression que vous n'avez que le choix des coups.
Non, ce n'est pas ce que je pensais dire. Je ne veux même pas être obligé d'avoir à faire sans cesse de la répression. Je veux, sur une simple injonction, avoir la possibilité d'arrêter toute discussion sur un sujet qui touche à l'administration.
Et comment vous y prendrez-vous ?
J'obligerai les journaux à accueillir en tête de leurs colonnes les rectifications que le gouvernement leur communiquera. Les agents de l'administration leur feront passer des notes dans lesquelles on leur dira catégoriquement « Vous avez avancé tel fait, il n'est pas exact. Vous êtes permis telle critique, vous avez été injuste, vous avez été inconvenant, vous avez eu tort, tenez-vous le pour dit. » Ce sera, comme vous le voyez, une censure loyale et à ciel ouvert.
Dans laquelle, bien entendu, on n'aura pas la réplique.
Évidemment non, la discussion sera close.
De cette manière, vous aurez toujours le dernier mot. Vous l'aurez sans user de violence. C'est très ingénieux. Comme vous le disiez très bien tout à l'heure, votre gouvernement est le journalisme incarné.
De même que je ne veux pas que le pays puisse être agité par les bruits du dehors, de même je ne veux pas qu'il puisse l'être par les bruits venus du dedans, même par les simples nouvelles privées. Quand il y aura quelque suicide extraordinaire, quelque grosse affaire d'argent trop véreuse, quelque méfait de fonctionnaire public, j'enverrai défendre aux journaux d'en parler. Le silence sur ces choses respecte mieux l'honnêteté publique que le bruit.
Et pendant ce temps, vous ferez du journalisme à outrance ?
Et il le faut bien. User de la presse, en user sous toutes ses formes, telle est aujourd'hui la loi des pouvoirs qui veulent vivre. C'est fort singulier, mais cela est. Aussi m'engagerai-je dans cette voie bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Pour comprendre l'étendue de mon système, il faut voir comment le langage de ma presse est appelé à concourir avec les actes officiels de ma politique. Je veux, je suppose, faire sortir une solution de telle complication extérieure ou intérieure. Cette solution indiquée par mes journaux, qui depuis plusieurs mois pratiquent chacun dans leur sens l'esprit public, se produit un beau matin, comme un événement officiel. Vous savez avec quelle discrétion et quels ménagements ingénieux doivent être rédigés les documents de l'autorité dans les conjonctures importantes. Le problème à résoudre en pareil cas est de donner une sorte de satisfaction à tous les partis. Eh bien, chacun de mes journaux, suivant sa nuance, s'efforcera de persuader à chaque parti que la résolution qu'on a prise est celle qui le favorise le plus. Ce qui ne sera pas écrit dans un document officiel, on en fera sortir par voie d'interprétation. Et ce qui ne sera qu'indiqué, les journaux officiels le traduiront plus ouvertement. Les journaux démocratiques et révolutionnaires le crieront par-dessus les toits. Et tandis qu'on se disputera, qu'on donnera les interprétations les plus diverses à mes actes, mon gouvernement pourra toujours répondre à tous et à chacun « Vous vous trompez sur nos intentions, vous avez mal lu mes déclarations, je n'ai jamais voulu dire que ceci ou que cela. » L'essentiel est de ne jamais se mettre en contradiction avec soi-même.
Comment ? Après ce que vous venez de me dire, vous avez une pareille prétention ?
Mais sans doute, oh, votre étonnement me prouve que vous ne m'avez pas compris. Ce sont les paroles bien plus que les actes qu'il s'agit de faire accorder. Comment voulez-vous que la grande masse d'une nation puis juger si c'est la logique qui mène son gouvernement. Il suffit de le lui dire. Je veux donc que les diverses phases de ma politique soient présentées comme le développement d'une pensée unique se rattachant à un but immuable. Chaque événement prévu ou imprévu sera un résultat sagement amené. Les écarts de direction ne seront que les différentes phases de la même question, les voies diverses qui conduisent au même but, les moyens variés d'une solution identique poursuivie sans relâche à travers les obstacles. Le dernier événement sera donné comme la conclusion logique de tous les autres.
En vérité, il faut qu'on vous admire. Quelle force de tête et quelle activité!
Chaque jour, mes journaux seraient remplis de discours officiels, de comptes rendus, de rapports aux ministres, de rapports aux souverains. Je n'oublierai pas que je vis dans une époque où l'on croit pouvoir résoudre par l'industrie tous les problèmes de la société, où l'on s'occupe sans cesse de l'amélioration du sort des classes ouvrières. Je m'attacherai d'autant plus à ces questions qu'elles sont un dérivatif très heureux pour les préoccupations de la politique intérieure. Chez les peuples méridionaux, il faut que les gouvernements paraissent sans cesse occupés. Les masses consentent à être inactives, mais à une condition, c'est que ceux qui les gouvernent leur donnent le spectacle d'une activité incessante, d'une sorte de fièvre, qu'ils attirent constamment leurs yeux par des nouveautés, par des surprises, par des coups de théâtre. Cela est bizarre, peut-être, mais encore une fois, cela est. Je me conformerai de point en point à ces indications. En conséquence, je ferai en matière de commerce, d'industrie, d'art et même d'administration, étudier toutes sortes de projets, de plans, de combinaisons, de changements, de remaniements, d'améliorations, dont le retentissement dans la presse couvrirait la voie des publicistes les plus nombreux et les plus féconds. L'économie politique a, dit-on, fait fortune chez vous. Eh bien, je ne laisserai rien à inventer, rien à publier, rien à dire même à vos théoriciens, à vos utopistes, aux déclamateurs les plus passionnés de vos écoles. Le bien-être du peuple serait l'objet unique, invariable de mes confidences publiques. Soit que je parle moi-même, soit que je fasse parler par mes ministres ou mes écrivains, on ne tarirait jamais sur la grandeur du pays, sur la prospérité, sur la majesté de sa mission et de ses destinées. On ne cesserait de l'entretenir des grands principes du droit moderne, des grands problèmes qui agitent l'humanité. Le libéralisme le plus enthousiaste, le plus universel, respirerait dans mes écrits. Les peuples de l'Occident aiment le style oriental, aussi le style de tous les discours officiels, de tous les manifestes officiels, devrait-il être toujours imagé, constamment pompeux, plein d'élévation et de reflets. Les peuples n'aiment pas les gouvernements athées. Dans mes communications avec le public, je ne manquerai jamais de mettre mes actes sous l'invocation de la divinité, en associant avec adresse ma propre étoile à celle du pays. Je voudrais que l'on comparât à chaque instant les actes de mon règne à ceux des gouvernements passés. Ce serait la meilleure manière de faire ressortir mes bienfaits et d'exciter la reconnaissance qu'ils méritent. Il serait très important de mettre en relief les fautes de ceux qui m'ont précédé, de montrer que j'ai su les éviter toujours. On entendrait ainsi, contre les régimes auxquels mon pouvoir a succédé, une sorte d'antipathie, d'aversion même, qui finirait par devenir irréparable comme une expiation. Non seulement je donnerais à un certain nombre de journaux la mission d'exalter sans cesse la gloire de mon règne, de rejeter sur d'autres gouvernements que le mien la responsabilité des fautes de la politique européenne, mais je voudrais qu'une grande partie de ces éloges parût n'être qu'un écho des feuilles étrangères, dont on reproduirait des articles, vrais ou faux, qui rendraient un hommage éclatant à ma propre politique. Au surplus, j'aurais à l'étranger des journaux soldés, dont l'appui serait d'autant plus efficace que je leur ferais donner une couleur d'opposition sur quelques points de détail. Mes principes, mes idées, mes actes seraient représentés avec l'auréole de la jeunesse, avec le prestige du droit nouveau, en opposition avec la décrépitude et la caducité des anciennes institutions. Je n'ignore pas qu'il faut des soupapes à l'esprit public, et que l'activité intellectuelle, refoulée sur un point, se reporte nécessairement sur un autre. C'est pour cela que je ne craindrai pas de jeter la nation dans toutes les spéculations théoriques et pratiques du régime industriel. En dehors de la politique, d'ailleurs, je vous dirai que je serai très bon prince, que je laisserai s'agiter en pleine paix les questions philosophiques ou religieuses. En matière de religion, la doctrine du libre examen est devenue une sorte de monomanie. Il ne faut pas contrarier cette tendance, on ne pourrait pas s'en danger. Dans les pays les plus avancés de l'Europe en civilisation, l'invention de l'imprimerie a fini par donner naissance à une littérature folle, furieuse, effrénée, presque immonde. C'est un grand mal. Eh bien, cela est triste à dire, mais il suffira presque de ne pas la gêner pour que cette rage d'écrire qui possède vos pays parlementaires soit à peu près satisfaite. Cette littérature pestiférée dont on ne peut empêcher le cours, la platitude des écrivains et des hommes politiques qui seraient en possession du journalisme, ne manquerait pas de former un contraste repoussant avec la dignité du langage qui tomberait des marges du trône, avec la dialectique vivace et colorée dont on aurait soin d'appuyer toutes les manifestations du pouvoir. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai voulu environner le prince de cet essaim de publicistes, d'hommes d'administration, d'avocats, d'hommes d'affaires et de jurisconsultes, qui sont essentiels à la rédaction de cette quantité de communications officielles dont je vous ai parlé, et dont l'impression serait toujours très forte sur les esprits. Telle est en bref l'économie générale de mon régime sur la presse.
Alors, vous en avez fini avec elle ?
Oui, à regret, car j'ai été beaucoup plus court qu'il ne l'aurait fallu. Mais nos instants sont comptés, il faut marcher rapidement.
J'ai besoin de me remettre un peu des émotions que vous venez de me faire traverser. Quelle fécondité de ressources! Quelles conceptions étranges! Il y a de la poésie dans tout cela, et je ne sais quelle beauté fatale que les modernes Byron ne désavoueraient pas. On retrouve là le talent scénique de l'auteur de la Mandragore.
Vous croyez, monsieur de Segonda? Oh, quelque chose me dit pourtant que vous n'êtes pas rassuré dans votre ironie. Vous n'êtes pas sûr que ces choses-là ne sont pas possibles.
Si c'est mon opinion qui vous préoccupe, vous l'aurez. J'attends la fin.
Je n'y suis pas encore.
Eh bien, continuez.
Je suis à vos ordres.
Vous venez, à vos débuts, d'édicter sur la presse une législation formidable. Vous avez éteint toutes les voix, à l'exception de la vôtre. Voilà les partis muets devant vous. Ne craignez-vous rien des complots ?
Non, car je serais bien peu prévoyant si des revers de la main je les armais tout à la fois.
Quels sont donc vos moyens ?
Je commencerai par faire déporter par centaines ceux qui ont accueilli les armes à la main l'avènement de mon pouvoir. On m'a dit qu'en Italie, en Allemagne et en France, c'était par les sociétés secrètes que se recrutaient les hommes de désordre qui conspirent contre les gouvernements. Je briserai chez moi ces fils ténébreux qui se trament dans les repères comme les toiles d'araignée.
Après ?
Le fait d'organiser une société secrète ou de s'y affilier sera puni rigoureusement.
Bien pour l'avenir, mais les sociétés existantes ?
J'expulserai, par voie de sûreté générale, tous ceux qui seront notoirement connus pour en avoir fait partie. Ceux que je n'atteindrai pas resteront sous le coup d'une menace perpétuelle, car je rendrai une loi qui permettra au gouvernement de déporter par voie administrative quiconque aura été affilié.
C'est-à-dire sans jugement.
Pourquoi dites-vous sans jugement ? La décision d'un gouvernement n'est-elle pas un jugement ? Soyez sûr qu'on aura peu de pitié pour les factieux. Dans les pays incessamment troublés par les discordes civiles, il faut ramener la paix par des actes de vigueur implacables. Il y a un compte des victimes à faire pour assurer la tranquillité, on le fait. Ensuite, l'aspect de celui qui commande devient tellement imposant que nul n'ose attenter à sa vie. Après avoir couvert de sang l'Italie, Sylla put reparaître dans Rome en simple et particulier, Personne ne toucha un cheveu de sa tête.
Je vois que vous êtes dans une période d'exécution terrible. Je n'ose pas vous faire d'observation. Il me semble cependant que, même en suivant vos dessins, vous pourriez être moins rigoureux.
Si l'on s'adressait à ma clémence, je verrais. Je puis même vous confier qu'une partie des dispositions sévères que j'écrirai dans la loi deviendront purement comminatoires.
C'est là ce que vous appelez comminatoire. Cependant, votre clémence me rassure un peu. Il y a des moments où, si quelque mortel vous entendait, vous lui glaceriez le sang.
Pourquoi ? J'ai vécu de très près avec le duc de Valentinois, qui a laissé une renommée terrible et qui la méritait bien, car il avait des moments impitoyables. Cependant, je vous assure que les nécessités d'exécution, une fois passées, c'était un homme assez débonnaire. On en pourrait dire autant de presque tous les monarques absolus. Au fond, ils sont bons. Ils le sont surtout pour les petits.
Je ne sais si je ne vous aime pas mieux dans l'éclat de votre colère. Votre douceur m'effraie plus encore. Mais revenons. Vous avez anéanti les sociétés secrètes.
N'allez pas si vite, je n'ai pas fait cela. Vous allez amener quelques confusions.
Quoi et comment ?
J'ai interdit les sociétés secrètes dont le caractère et les agissements échapperaient à la surveillance de mon gouvernement. Mais je n'ai pas entendu me priver d'un moyen d'information, d'une influence occulte qui peut être considérable si l'on sait s'en servir.
Que pouvez-vous méditer là-dessus ?
Bien, j'entrevois la possibilité de donner à un certain nombre de ces sociétés une sorte d'existence légale, ou plutôt de les centraliser toutes en une seule dont je nommerai le chef suprême. Par là, je tiendrai dans ma main les divers éléments révolutionnaires que le pays renferme. Les gens qui composent ces sociétés appartiennent à toutes les nations, à toutes les classes, à tous les rangs. Je serai mis au courant des intrigues les plus obscures de la politique. Ce sera là comme une annexe de ma police dont j'aurai bientôt à vous parler. Ce monde souterrain des sociétés secrètes est rempli de cerveaux vides, dont je ne fais pas le moindre cas. Mais il y a là des directions à donner, des forces à mouvoir. S'il s'y agite quelque chose, c'est ma main qui remue. S'il s'y prépare un complot, le chef, c'est moi. Je suis le chef de la Ligue.
Et vous croyez que ces cohortes de démocrates, ces républicains, ces anarchistes, ces terroristes vous laisseront approcher et rompre le pain avec eux ? Vous pouvez croire que ceux qui ne veulent point de domination humaine accepteront un guide qui sera autant dire un maître.
Mais c'est que vous ne connaissez pas, ô Montesquieu, ce qu'il y a d'impuissance et même de niaiserie chez la plupart des hommes de la démagogie européenne. Ces tigres ont des âmes de moutons, des têtes pleines de vent. Il suffit de parler leur langage pour pénétrer dans leur rang. Leurs idées auront presque toutes d'ailleurs des affinités incroyables avec les doctrines du pouvoir absolu. Leur rêve est l'absorption des individus dans une unité symbolique. Ils demandent la réalisation complète de l'égalité par la vertu d'un pouvoir qui ne peut être en définitive que dans la main d'un seul homme. Vous voyez que je suis encore ici le chef de leur école. Et puis il faut dire qu'ils n'ont pas le choix. Les sociétés secrètes existeront dans les conditions que je viens de dire ou elles n'existeront pas.
La finale du sic volo, sic jubeo, ne se fait jamais attendre longtemps avec vous. Je crois que, décidément, vous voilà bien gardé contre les conjurations.
Oui, car il est bon de vous dire encore que la législation ne permettra pas les réunions, les conciliabules qui dépasseront un certain nombre de personnes.
Combien ?
Oh, tenez-vous à ces détails, on ne permettra pas de réunion de plus de 15 ou 20 personnes, si vous voulez.
Et quoi ? Des amis ne pourront dîner ensemble au-delà de ce nombre ?
Vous vous alarmez déjà, je le vois bien, au nom de la gaieté gauloise. Eh bien oui, on le pourra, car mon règne ne sera pas aussi farouche que vous le pensez, mais à une condition, c'est qu'on ne parlera pas politique.
On pourra parler littérature ?
Oui, mais à la condition que sous prétexte de littérature, on ne se réunira pas dans un but politique, car on peut encore ne pas parler politique du tout et donner néanmoins à un festin un caractère de manifestation qui serait compris du public. Il ne faut pas cela.
Hélas, que dans un pareil système, il est difficile aux citoyens de vivre sans porter ombrage au gouvernement.
C'est une erreur. Il n'y aura que les factieux qui souffriront de ces restrictions. Personne d'autre ne les sentira. Il va de soi que je ne m'occupe point ici des actes de rébellion contre mon pouvoir, ni des attentats qui auraient pour objet de le renverser, ni des attaques soit contre la personne du prince, soit contre son autorité ou ses institutions. Ce sont là de véritables crimes qui sont réprimés par le droit commun de toutes les législations. Ils seraient prévus et punis dans mon royaume d'après une classification et suivant des définitions qui ne laisseraient pas prise à la moindre atteinte directe ou indirecte contre l'ordre des choses établies.
Permettez-moi de m'en fier à vous à cet égard et de ne pas m'enquérir de vos moyens. Il ne suffit pas, toutefois, d'établir une législation draconienne. Il faut encore trouver une magistrature qui veuille l'appliquer. Ce point n'est pas sans difficulté.
Il n'y en a là aucune.
Vous allez donc détruire l'organisation judiciaire ?
Je ne détruis rien. Je modifie et j'innove.
Alors vous établirez des cours martiales, prévôtales, des tribunaux d'exception, enfin ?
Non.
Que ferez-vous donc ?
Il est bon que vous sachiez d'abord que je n'aurai pas besoin de décréter un grand nombre des lois sévères dont je poursuivrai l'application. Beaucoup d'entre elles existeront déjà et seront encore en vigueur. Car tous les gouvernements libres ou absolus, républicains ou monarchiques, sont aux prises avec les mêmes difficultés. Ils sont obligés, dans les moments de crise, de recourir à des lois de rigueur dont les unes restent et dont les autres s'affaiblissent, après les nécessités qui les ont vues naître. On doit faire usage des unes et des autres. À l'égard des dernières, on rappelle qu'elles n'ont pas été explicitement abrogées, que c'étaient des lois parfaitement sages, que le retour des abus qu'elles prévenaient rend leur application nécessaire. De cette manière, le gouvernement me paraît faire, ce qui sera souvent vrai, qu'un acte de bonne administration. Vous voyez qu'il ne s'agit que de donner un peu de ressort à l'action des tribunaux, ce qui est toujours facile dans les pays de centralisation, où la magistrature se trouve en contact direct avec l'administration par la voie du ministère dont elle relève. Quant aux lois naturelles qui seront faites sous mon règne et qui, pour la plupart, auront été rendues sous forme de simples décrets, l'application n'en sera peut-être pas aussi facile parce que, dans les pays où le magistrat est inamovible, il résiste de lui-même dans l'interprétation de la loi à l'action trop directe du pouvoir. Mais je crois avoir trouvé une combinaison très ingénieuse, très simple en apparence, purement réglementaire, qui, sans porter atteinte à l'inamovibilité de la magistrature, modifiera ce qu'il y a de trop absolu dans les conséquences du principe. Je rendrai un décret qui mettra les magistrats à la retraite quand ils seront arrivés à un certain âge. Et je ne doute pas qu'ici encore, je n'ai l'opinion avec moi, car c'est un spectacle pénible que de voir, comme cela est si fréquent, le juge qui est appelé à statuer à chaque instant sur les questions les plus hautes et les plus difficiles, tomber dans une caducité d'esprit qui l'en rend complètement incapable.
Mais permettez, j'ai quelques notions sur les choses dont vous parlez. Le fait que vous avancez n'est point du tout conforme à l'expérience. Chez les hommes qui vivent par l'exercice continuel des travaux de l'esprit, l'intelligence ne s'affaiblit pas ainsi. C'est là, si je puis le dire, le privilège de la pensée chez ceux dont elle devient l'élément principal. Si, chez quelques magistrats, les facultés chancellent avec l'âge, chez le plus grand nombre, elles se conservent, et leurs lumières vont toujours en augmentant. Il n'est pas besoin de les remplacer, car la mort fait dans leur rang les vides naturels qu'elle doit faire. Mais y eut-il en effet parmi eux autant d'exemples de décadence que vous le prétendez, qu'il vaudrait mille fois mieux, dans l'intérêt d'une bonne justice, souffrir ce mal que d'accepter votre remède?
J'ai des raisons supérieures aux vôtres.
La raison d'État?
Peut-être. Mais soyez sûr d'une chose, c'est que dans cette organisation nouvelle, les magistrats ne diviseront pas plus qu'auparavant quand il s'agira d'intérêts purement civils.
Qu'en sais-je? Car d'après vos paroles, je vois déjà qu'ils dévieront quand il s'agira d'intérêts politiques.
Ils ne dévieront pas. Ils feront leur devoir comme ils doivent le faire. Car en matière politique, il est nécessaire, dans l'intérêt de l'ordre, que les juges soient toujours du côté du pouvoir. Ce serait la pire des choses qu'un souverain pût être atteint par des arrêts factieux dont le pays entier s'emparait à l'instant même contre le gouvernement. Que servirait d'avoir imposé silence à la presse si elle se retrouvait dans les jugements des tribunaux ?
Sous des apparences modestes, votre moyen est donc bien puissant que vous lui attribuiez une telle portée ?
Oui, car il fait disparaître cet esprit de résistance, cet esprit de corps, toujours si dangereux dans des compagnies judiciaires qui ont conservé le souvenir, peut-être le culte, des gouvernements passés. Il introduit dans leur sein une masse d'éléments nouveaux, dont les influences sont toutes favorables à l'esprit qui anime mon règne. Chaque année, 20, 30, 40 places de magistrats, qui deviennent vacantes par la mise à la retraite, entraînent un déplacement dans tout le personnel de la justice, qui peut se renouveler ainsi, presque de fond en comble, tous les 6 mois. Une seule vacance, vous le savez, peut entraîner 50 nominations par l'effet successif des titulaires de différents grades qui se déplacent. Vous jugez de ce qu'il en peut être quand ce sont 30 ou 40 vacances qui se produisent à la fois. Non seulement l'esprit collectif disparaît en ce qu'il peut avoir de politique, mais on ne rapproche plus étroitement du gouvernement qui dispose d'un plus grand nombre de sièges. On a des hommes jeunes qui ont le désir de faire leur chemin, qui ne sont plus arrêtés dans leur carrière par la perpétuité de ceux qui les précèdent. Ils savent que le gouvernement aime l'ordre, que le pays l'aime aussi, et il ne s'agit que de les servir tous deux, en faisant bonne justice quand l'ordre y est intéressé.
Mais à moins d'un aveuglement sans nom, on vous reprochera d'exciter, dans la magistrature, un esprit de compétition fatale dans les corps judiciaires. Je ne vous montrerai pas quelles en sont les suites, car je crois que cela ne vous arrêterait pas.
Vous n'avez pas la prétention d'échapper à la critique. Elle importe peu pourvu que je ne l'entende pas. J'aurai pour principe en toute chose l'irrévocabilité de mes décisions, malgré les murmures. Un prince qui agit ainsi est toujours sûr d'imposer le respect de sa volonté. Je vous ai déjà dit bien des fois, et je vous le répète encore, que je n'ai pas besoin de tout créer, de tout organiser, que je trouve dans les institutions déjà existantes une grande partie des instruments de mon pouvoir. Savez-vous ce que c'est que la garantie constitutionnelle ?
Oui, et je le regrette pour vous, car je vous enlève, sans le vouloir, une surprise que vous n'auriez peut-être pas été fâché de me ménager, avec l'habileté de mise en scène qui vous est propre.
Et qu'en pensez-vous ?
Je pense ce qui est vrai, au moins pour la France dont vous semblez vouloir parler. C'est que c'est une loi de circonstance qui doit être modifiée, sinon complètement disparaître, sous un régime de liberté constitutionnelle.
Oh, je vous trouve bien modéré sur ce point. C'est simplement, d'après vos idées, une des restrictions les plus tyranniques du monde. Quoi ? Lorsque les particuliers seront lésés par des agents du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions et qu'ils les traduiront devant les tribunaux, les juges devront répondre « Ah, nous ne pouvons vous faire droit, la porte du prétoire est fermée, allez demander à l'administration l'autorisation de poursuivre ses fonctionnaires. » Mais c'est un véritable déni de justice. Combien de fois arrivera-t-il au gouvernement d'autoriser de semblables poursuites ?
De quoi vous plaignez-vous ? Il me semble que ceci fait très bien vos affaires.
Non, je ne vous ai dit cela que pour vous montrer que, dans les États où l'action de la justice rencontre de tels obstacles, un gouvernement n'a pas grand-chose à craindre des tribunaux. C'est toujours comme disposition transitoire que l'on s'insère dans les lois de telles exceptions. Mais les époques de transition, une fois passées, les exceptions restent. Et c'est avec raison, car lorsque l'ordre règne, elle ne gêne point. Et quand il est troublé, elles sont nécessaires. Il est une autre institution moderne qui ne sert pas avec moins d'efficacité l'action du pouvoir central, c'est la création auprès des tribunaux d'une grande magistrature que vous appelez le ministère public et qui s'appelait autrefois, avec beaucoup plus de raison, le ministère du roi. parce que cette fonction est essentiellement amovible et révocable au gré du prince. Je n'ai pas besoin de vous dire quelle est l'influence de ce magistrat sur les tribunaux auprès desquels il siège. Elle est considérable. Retenez bien tout ceci. Et maintenant, je vais vous parler de la Cour de cassation, dont je me suis réservé de vous dire quelque chose, et qui joue un rôle si considérable dans l'administration de la justice. La Cour de cassation est plus qu'un corps judiciaire. C'est en quelque sorte un quatrième pouvoir dans l'État, parce qu'il lui appartient de fixer en dernier ressort le sens de la loi. Aussi vous répéterai-je ici ce que je crois vous avoir dit à propos du Sénat et de l'Assemblée législative. Une semblable Cour de justice qui serait complètement indépendante du gouvernement pourrait, en vertu de son pouvoir d'interprétation souverain et presque discrétionnaire, le renverser quand elle voudrait. Il lui suffirait pour cela de restreindre ou d'étendre systématiquement, dans le sens de la liberté, les dispositions de loi qui règlent l'exercice des droits politiques.
Et c'est apparemment le contraire que vous allez lui demander ?
Non, je ne lui demanderai rien, elle fera d'elle-même ce qu'il conviendra de faire. Car c'est ici que concourront le plus puissamment les différentes causes d'influence dont je vous ai parlé plus haut. Plus le juge est près du pouvoir, plus il lui appartient. L'esprit conservateur du règne se développera là, à un plus haut degré que partout ailleurs, et les lois de haute police politique recevront, dans le sein de cette grande assemblée, une interprétation si favorable à mon pouvoir que je serai dispensé d'une foule de mesures restrictives qui, sans cela, deviendraient nécessaires.
On dirait vraiment, à vous entendre, que les lois sont susceptibles des interprétations les plus fantasques. Est-ce que les textes législatifs ne sont pas clairs et précis ? Est-ce qu'ils peuvent se prêter à des extensions ou à des restrictions comme celles que vous indiquez ?
Ce n'est pas à l'auteur de l'esprit des lois, au magistrat expérimenté qui a dû rendre tant d'excellents arrêts, que je puisse avoir la prétention d'apprendre ce que c'est que la jurisprudence. Il n'y a pas de texte, si clair qu'il soit, qui ne puisse recevoir les solutions les plus contraires, même en droit civil pur. Mais je vous prie de remarquer que nous sommes ici en matière politique. Or, c'est une habitude commune aux législateurs de tous les temps d'adopter, dans quelques-unes de leurs dispositions, une rédaction assez élastique pour qu'elle puisse, selon les circonstances, servir à régir des cas ou à introduire des exceptions sur lesquelles il n'eût pas été prudent de s'expliquer d'une manière plus précise. Oh, je sais parfaitement que je dois vous donner des exemples, car sans cela ma proposition vous paraîtrait trop vague. Et l'embarras pour moi est de vous en présenter qui est un caractère de généralité assez grand pour me dispenser d'entrer dans le long détail. En voici un que je prends de préférence, parce que tout à l'heure nous avons touché à cette matière. En parlant de la garantie constitutionnelle, vous disiez que cette loi d'exception devait être modifiée dans un pays libre. Eh bien, je suppose que cette loi existe dans l'État que je gouverne. Je suppose qu'elle a été modifiée. Ainsi, j'imagine qu'avant moi, il a été promulgué une loi qui, en matière électorale, permettait de poursuivre les agents du gouvernement sans l'autorisation du Conseil d'État. La question se présente sous mon règne qui, comme vous le savez, a introduit de grands changements dans le droit public. On veut poursuivre un fonctionnaire devant les tribunaux à l'occasion d'un fait électoral. Le magistrat du ministère public se lève et dit « La faveur dont on veut se prévaloir n'existe plus aujourd'hui. Elle n'est plus compatible avec les institutions actuelles. L'ancienne loi, qui dispensait de l'autorisation du Conseil d'État, en pareil cas était implicitement abrogée. Les tribunaux répondent oui ou non. En fin de compte, le débat est porté devant la Cour de cassation, et cette haute juridiction fixe ainsi le droit public sur ce point. L'ancienne loi est abrogée implicitement. L'autorisation du Conseil d'État est nécessaire pour poursuivre les fonctionnaires publics, même en matière électorale. Voici un autre exemple. Il a quelque chose de plus spécial. Il est emprunté à la police de la presse. On m'a dit qu'il y avait en France une loi qui obligeait, sous une sanction pénale, tous les gens faisant métier de distribuer et de colporter des écrits à se munir d'une autorisation délivrée par le fonctionnaire public qui est préposé dans chaque province à l'administration générale. La loi a voulu réglementer le colportage et l'astreindre à une étroite surveillance. Tel est le but essentiel de cette loi. Mais le texte de la disposition porte, je suppose, « Tout distributeur ou colporteur devront être munis d'une autorisation, etc. » Eh bien, la Cour de cassation, si la question lui est proposée, pourra dire « Bon, ce n'est pas seulement le fait professionnel que la loi dont il s'agit a eu en vue. C'est tout fait quelconque de distribution ou de colportage. En conséquence, l'auteur même d'un écrit ou d'un ouvrage qui en remet un ou plusieurs exemplaires, fût-ce à titre d'hommage, sans autorisation préalable, fait acte de distribution de colportage. Par suite, il tombe sous le coup de la disposition pénale. Vous voyez de suite ce qui résulte d'une semblable interprétation. Au lieu d'une simple loi de police, vous avez une loi restrictive du droit de publier sa pensée par la voie de la presse.
Il ne vous manquerait plus que d'être juriste.
Mais cela est absolument nécessaire. Comment aujourd'hui renverse-t-on les gouvernements ? Par des distinctions légales, par des subtilités de droit constitutionnel, en usant contre le pouvoir de tous les moyens, de toutes les armes, de toutes les combinaisons qui ne sont pas directement prohibées par la loi. Et ces artifices de droit que les partis emploient avec tant d'acharnement contre le pouvoir, vous ne voudriez pas que le pouvoir les employât contre les partis ? Mais la lutte ne serait pas égale, la résistance ne serait même pas possible, il faudrait abdiquer.
Vous avez tant d'écueils à éviter que c'est un miracle si vous les prévoyez tous. Les tribunaux ne sont pas liés par leur jugement. Avec une jurisprudence comme celle qui sera appliquée sous votre règne, je vous vois bien des procès sur les bras. Les justiciables ne se lasseront pas de frapper à la porte des tribunaux pour leur demander d'autres interprétations.
Dans les premiers temps, c'est possible. Mais quand un certain nombre d'arrêts auront définitivement assis la jurisprudence, personne ne se permettra plus ce qu'elle défend, et la source des procès sera tarie. L'opinion publique sera même tellement apaisée qu'on s'en rapportera sur le sens des lois aux avis officieux de l'administration.
Et comment, je vous prie ?
Dans telles ou telles conjectures données, quand on aura lieu de craindre que quelques difficultés ne s'élèvent sur tel ou tel point de législation, l'administration, sous forme d'avis, déclarera que tel ou tel fait tombe sous l'application de la loi et que la loi s'étend à tel ou tel cas.
Mais ce ne sont là que des déclarations qui ne lient en aucune manière les tribunaux.
Sans aucun doute, mais ces déclarations n'en auront pas moins une très grande autorité, une très grande influence sur les décisions de la justice, partant d'une administration aussi puissante que celle que j'ai organisée. Elles auront surtout un très grand empire sur les résolutions individuelles. Et dans une foule de cas, pour ne pas dire toujours, elles préviendront des procès fâcheux. On s'abstiendra.
À mesure que nous avançons, je vois que votre gouvernement devient de plus en plus paternel. Ce sont là des mœurs judiciaires presque patriarcales. Il me paraît impossible, en effet, que l'on ne vous tienne pas compte d'une sollicitude qui s'exerce sous tant de formes ingénieuses.
Vous voilà pourtant obligé de reconnaître que je suis bien loin des procédés barbares de gouvernement que vous sembliez me prêter au commencement de cet entretien. Vous voyez qu'en tout ceci la violence ne joue aucun rôle. Je prends mon point d'appui où chacun le prend aujourd'hui, dans le droit.
Dans le droit du plus fort.
Le droit qui se fait obéir est toujours le droit du plus fort. Oh, je ne connais pas d'exception à cette règle.